Il est 7h42 et nous recevons Hervé Juvin, écrivain, essayiste, candidat du Rassemblement National aux élections européennes. Vous avez entendu cette revue de presse internationale. Franchement, le Brexit était-il une bonne idée, Hervé Juvin ?
Je ne sais pas si le Brexit était une bonne idée. Bienheureux ceux qui y voient clair aujourd'hui. On voit bien que les enjeux internes se mêlent aux enjeux européens. Très clairement, le Labour et beaucoup au Labour sont en train de chercher l'occasion de faire tomber Theresa May. Je ne suis pas sûr que ce ne soit pas non plus la recherche d'un certain nombre de conservateurs qui se verraient bien à sa place. Tout ce qui se passe n'est pas non plus une très bonne nouvelle pour l'Union européenne. D'abord parce que nos amis britanniques ne sont pas les seuls à juger qu'un club dont on ne peut pas sortir, ça s'appelle une mafia. Ensuite, parce qu'on voit un certain nombre de déclarations, celle de Donald Tusk vouant à une place spéciale en enfer les Brexiteurs, Valérie Pécresse appelant à punir sévèrement les Britanniques qui ont voulu sortir de l'Union européenne, c'est pas très convenable entre des alliés historiques comme l'ont été si longtemps la Grande-Bretagne et la France. J'ajouterai un dernier mot. Je crois qu'à l'origine de la crise politique que nous vivons et du moment politique que nous vivons, et notamment des Gilets jaunes, il y a le déni du référendum de 2005, il y a le déni du non-français, du non-néerlandais à la Constitution et au projet de Constitution européenne. Vous savez que ce référendum a été refusé chaud, il a été servi froid, sans vote populaire quelques années plus tard par Nicolas Sarkozy. Il y a là une rupture démocratique majeure. Quand je lis la lettre du président Macron à l'Europe, je remarque d'ailleurs qu'elle a fait un flop à peu près partout et elle a été sévèrement contrée par le nouveau leader du parti conservateur allemand. J'observe que c'est pas très convenable ce qui est écrit à l'égard des Britanniques. En gros, ces pauvres Britanniques auraient été trompés par de la propagande étrangère, ils auraient été victimes de mensonges. Il faut tout simplement annuler leur vote et qu'ils reviennent, comme si de rien n'était, sur le chemin de l'Union européenne. Ça s'appelle pas de respect de la démocratie. Je rappelle simplement que le référendum britannique qui a conduit à ces négociations a été l'objet du plus grand nombre de votes de toute l'histoire britannique. Il y a eu, je crois, 31-32 millions de votants. On balaye pas ça d'un revers de la main. Et quand on veut balayer ça d'un revers de la main, ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup de respect pour la démocratie, on n'a pas beaucoup de respect pour le peuple britannique.
Hervé Juvin, j'ai lu que vous aviez décidé de devenir candidat pour le Rassemblement National aux élections européennes, notamment parce que le Rassemblement National avait décidé de ne pas mettre la sortie de l'euro dans son programme.
Oh, ça n'est certainement pas ce qui m'a décidé.
Est-ce que c'était un point important ? Est-ce que, par exemple, si Marine Le Pen avait conservé la sortie de l'euro dans son programme, eh bien, vous auriez renoncé à ce projet de la rejoindre ?
Écoutez, ma décision ne s'est pas faite comme cela et ça ne s'est pas posé de cette manière. Il se trouve que j'ai publié un certain nombre de notes, j'ai publié un certain nombre de documents
qui disent que
la sortie de l'euro, c'est une stupidité. La France sortant seule de l'euro, c'est une stupidité. Et d'ailleurs, les principales victimes en seraient les Français les plus démunis, dont l'essentiel de l'épargne, c'est en assurance vie, et l'essentiel de l'épargne est en obligation publique.
C'est donc que l'Europe n'est pas intégralement mauvaise.
Si vous consultez les populations européennes, elles sont plutôt assez contentes
de
l'euro.
Je veux consulter Hervé Juvin, c'est-à-dire vous.
Les populations européennes sont plutôt assez contentes de l'euro. Il faut établir ce constat. Il faut établir aussi le constat qu'il y a des faiblesses structurelles dans l'euro. Notamment les gains considérables de la zone marque et les pertes, les déficits considérables du pays du Sud. Il faut réformer cela. C'est pourquoi j'appelle pour ma part une réforme de la gouvernance de la zone euro. Et puis probablement, est-ce qu'il faut des mécanismes qui fonctionnent entre le Nord et le Sud ? Et aujourd'hui, on ne les a pas trouvés.
Par exemple, à quoi penseriez-vous, Hervé Juvin ?
Sur la gouvernance, la Banque Centrale Européenne est indépendante. Elle est indépendante de tout sauf de la stabilité de la monnaie. Les grandes banques centrales dans le monde, pour la plupart, ont aussi dans leur cahier des charges des objectifs de croissance, certains des objectifs de plein emploi, des objectifs des comptes extérieurs. Probablement, est-ce qu'il faut réformer la gouvernance de la Banque Centrale Européenne ? Et puis ensuite, on ne peut pas assister sans rien faire à un mécanisme qui veut que l'Allemagne ait aujourd'hui accumulé quelques 700 à 800 milliards d'euros d'excédents sur les pays du Sud, quand l'Espagne et l'Italie ont chacun 300 et 400 milliards de déficit. On arrive à un monde irréel et contrairement à tout ce qu'on nous a promis, l'euro ne fait pas la convergence, l'euro est en train de faire gravement diverger les économies européennes.
Hervé Juvin, je l'ai dit, vous êtes une sorte de prise de guerre pour le Rassemblement National, vous êtes un intellectuel, on vous doit plus d'une dizaine d'ouvrages, certains ont été publiés chez Gallimard. Qu'est-ce qui incite un intellectuel comme vous à rejoindre le Rassemblement National qui n'a pas nécessairement bonne presse dans les milieux intello ?
D'abord, je n'ai pas rejoint le Rassemblement National. Je suis candidat indépendant sur cette liste. Bon, c'est un peu une formalité. Vous avez raison. Très clairement, je crois que l'avenir est à la nation. Très clairement, je crois que l'avenir est aux partis populaires nationaux. Et j'ai pensé qu'il était utile, à l'âge que j'ai, par rapport à mon parcours, notamment d'essayiste et d'écrivain, je pense qu'il était utile, je le dis avec un peu d'ambition, de réécrire le vieux logiciel de la droite populaire et nationale. Pourquoi ? Essentiellement pour une raison bien simple. Notre vie politique depuis 30 à 40 ans est totalement dominée par la prétendue science économique. Et elle est totalement dominée par ces deux affirmations de Margaret Thatcher, aussi fausses l'une que l'autre, il n'y a pas d'alternative, et la société ça n'existe pas, il n'y a que des individus. Je pense que le temps du « je » est fini, le temps du « nous » commence, et je pense que chacune et chacun se rend compte que c'est la société qui assure la confiance, la sécurité et le bonheur, beaucoup plus que les talents individuels dans un monde réduit à une jungle. Ça veut dire que c'est l'écologie, comme science des systèmes vivants complexes, qui doit prendre le pas sur l'économie. Et ça, si je peux le mener, ce sera mon combat pour les années à venir.
Alors, on va séparer cette formulation, parce que effectivement, c'est un peu la marque de fabrique de vos ouvrages. Vous êtes censé avoir apporté l'écologie au Rassemblement National. La première partie de votre discours, il pourrait très bien convenir à un parti de gauche, voire même d'extrême gauche, dire voilà, la société doit prendre le pas sur les individus, c'est le nous qui doit l'emporter. Pourquoi ne pas avoir rejoint un parti de gauche ? Qu'est-ce qui vous sépare de la gauche dans ces conditions, Hervé Juvin ?
De ce qui s'appelle la gauche actuelle, c'est très simple, c'est la citoyenneté, c'est la nation. Quand je dis que le « je » doit le céder au « nous », c'est le « nous citoyen », c'est le « nous républicain » et c'est le « nous national ». Je crois que la gauche, convertie au mondialisme à la fin de l'époque Mitterrand, la gauche qui ne sait pas se départir d'un internationalisme naïf et totalement dépassé, n'arrive pas à poser le problème des frontières, donc elle n'arrive pas à poser le problème des limites, et donc elle ne pourra pas être dans la révolution écologique qui s'annonce. Parce qu'il n'y aura pas de révolution écologique sans tenir compte des limites, et il n'y aura pas de révolution écologique sans tenir compte des frontières nécessaires qui assurent la diversité des sociétés humaines aussi importante que la diversité des espèces animales et végétales.
Mais Marine Le Pen est très mondialiste, par exemple. Elle apprécie Donald Trump, elle a cherché à le rencontrer, elle marque son intérêt pour Viktor Orban, le premier ministre hongrois, bref, vous avez juste une autre mondialisation que celle que vous prêtez, par exemple, à François Mitterrand, Hervé Juvin.
Je crois que la mondialisation que vous attribuez généreusement à Marine Le Pen n'est pas du tout celle de l'ouverture des frontières, des traités de libre-échange et de l'idée de la planète démocratique où tous les hommes sont les mêmes. C'est plutôt l'alliance des nationaux. C'est plutôt l'alliance de ceux qui croient, comme l'a dit Donald Trump, que les frontières comptent. Donald Trump a dit « un pays qui ne sait pas défendre ses frontières est un pays voué à disparaître ». C'est la grande crainte que j'ai pour l'Union européenne et aussi pour la France.
Mais alors, effectivement, j'ai lu l'un de vos derniers ouvrages, enfin en l'occurrence le dernier, « France, le moment politique », il a été publié aux éditions du Rocher, et vous insistez sur votre amour de la France. Et je me suis dit, mais finalement, qui vise-t-il ? Qui n'aime pas la France, Hervé Juvin ?
Oh, ma réponse est bien simple. Nous avons fabriqué depuis une trentaine d'années une pseudo-élite qui truste les postes de commandement à la fois dans les entreprises, dans la haute administration et dans ce qu'il est convenu d'appeler le monde politique, qui est persuadée que le monde se réduit à son exploitation, que les nations ne comptent plus, que les peuples sont amenés à se dissoudre dans la mondialisation et que nous sommes tous des nomades comme les autres.
Qui dit ça ?
Écoutez, regardez le discours d'Emmanuel Macron, regardez le discours de La République En Marche. C'est l'apologie des nomades, c'est l'apologie de l'ouverture.
Vraiment, vous avez entendu ça ?
Ah, totalement.
Dans le mépris pour le peuple français. Emmanuel Macron, assis sur le patrimoine, il y a...
Je vais prendre des exemples très simples. La concentration de la fiscalité sur la propriété foncière et immobilière s'aboutit à fragiliser ce lien, j'ai envie de dire, séculaire des Français avec leurs terres, avec leurs propriétés. Et c'est quelque part l'idée de faire des Français des nomades comme les autres. Le fait de supprimer les enquêtes d'utilité publique, le fait de réduire de moitié les moyens de la DGCCRF, la répression de la concurrence et les fraudes, le fait de diminuer les contrôles d'État, tout cela va dans le sens d'ouvrir la France à son exploitation par les multinationales, par les fonds d'investissement, par les banques d'affaires. Tout ça est extrêmement logique. Il s'agit que la France se dissolve d'abord dans l'Union européenne, ensuite dans la mondialisation. Et il s'agit de faire des Français des nomades comme les autres. C'est contre cela que nous nous élevons. Et c'est contre cela, je crois, que l'écologie humaine dresse les digues absolument nécessaires. Sinon, nous allons disparaître en tant que nation, en tant que citoyen.
Bon, ben alors, je pourrais très bien vous rétorquer que la première chose à faire pour la France, c'est d'apporter du travail à ceux qui habitent ici, Hervé Juvin. Pourquoi, par exemple, Marine Le Pen ne s'est-elle pas élevée? On a cherché longuement dans son programme. Il n'y a rien contre les délocalisations. Pourquoi, par exemple, ne pas les incriminer si vous considérez qu'il faut défendre nos compatriotes?
Vous ne vous étonnerez pas si je ne m'estime pas responsable du programme de Marine Le Pen au présidentiel ou lors de précédentes élections. Ce que je peux dire aujourd'hui, et c'est d'ailleurs repris par un certain nombre de vos confrères, c'est qu'au programme de la liste européenne du Rassemblement National, il y a le localisme, il y a les relocalisations, il y a ces deux dispositions très simples, qui est de faire qu'une partie de l'argent collecté par une banque doit être réinvesti dans la région ou dans le département où il est collecté. Il y a cette autre disposition également simple, favoriser l'accès des PME aux appels d'offres publics des collectivités territoriales où elles se trouvent. Ce sont deux exemples parmi d'autres. Nous avons, je crois que le Rassemblement National s'est fortement prononcé contre les travailleurs détachés. Ce sont des exemples. Le localisme est à l'ordre du jour. C'est l'excellence locale qui fera notre rayonnement dans le monde.
Alors le localisme, effectivement, c'est une idée qu'on vous attribue, Hervé Juvin. On dit que c'est vous qui l'avez apporté au Rassemblement National. On peut dire qu'on y retrouve la trace d'un certain nombre de métaphores de Jean-Marie Le Pen. Vous savez, par exemple, lorsqu'il disait « je préfère ma sœur à ma cousine et ma cousine à ma voisine ». C'est-à-dire des métaphores qui fonctionnent très bien dans la vie courante, mais qui en réalité deviennent des erreurs logiques dans une société lorsqu'il s'agit d'organiser une société, puisque vous savez bien que on peut être locavore, c'est-à-dire vouloir par exemple manger lorsqu'on est en région parisienne des plantes ou des aliments qui viennent de la région parisienne de l'Île-de-France. En revanche, c'est extrêmement difficile d'envisager une société complexe comme la nôtre avec des choses qui ne viendraient que de la région où nous sommes.
Ne soyons pas caricaturaux, si vous le voulez bien, et vous ne l'êtes pas d'ailleurs. Quelle absurdité quand on constate que certains des vêtements que nous portons, certains aussi des aliments, ont fait deux ou trois fois le tour du monde avant d'arriver sur notre table. Ça veut dire simplement que notre système économique est failli. Ça veut dire que le coût de la distance n'est plus pris en compte. Je l'observe dans la colère des Gilets jaunes. La colère des Gilets jaunes, c'est quoi? C'est l'inversion du coût de la proximité. Ça coûte plus cher d'acheter les aliments produits près de chez soi. Par exemple, en Aveyron, ça coûte plus cher d'acheter du mouton de l'Aveyron que du mouton de Nouvelle-Zélande. C'est absurde, ça veut dire que le coût de la distance n'est pas payé. Le coût de la proximité, c'est aussi que ça coûte plus cher d'habiter dans une zone rurale. Je l'ai dit, de s'approvisionner auprès des producteurs locaux, de travailler dans sa région, de trouver des commerçants locaux, que d'aller s'approvisionner dans la grande surface à 30 ou 40 km où on va remplir son coffre pour la semaine. Est-ce que c'est le modèle de société que nous voulons? Il repose sur une absurdité, le prix de la distance n'est pas payé. C'est probablement ce à quoi devrait remédier l'augmentation progressive du coût de la tonne de CO2. J'observe qu'aujourd'hui, les super-tankers, les avions low-cost ne paient pas le coût de la distance. Quand le pauvre Aveyronnais ou le pauvre Breton qui doit faire 40 km par jour pour aller travailler, lui, se voit durement imposé par le prix de l'essence et par des taxes sur sa voiture. Ça n'est tout simplement pas convenable. Et c'est à cela qu'entend remédier le localisme.
Si vous fermez les frontières, le pauvre Aveyronnais, celui que vous appelez ainsi, c'est une formule, bien sûr, Hervé Juvin, il va payer son pull-over beaucoup plus cher parce que, tout simplement, eh bien, ce pull-over, il sera fabriqué dans l'Aveyron et non plus en Chine ou ailleurs. Et son pouvoir d'achat diminuera d'autant. Qu'est-ce que vous allez lui dire?
D'abord, son pull-over, je le dis en plaisantant, sera peut-être de meilleure qualité. Je dis simplement que personne ne pense fermer les frontières. Le projet est simplement de remplacer le libre-échange par le juste-échange. Le libre-échange, c'est quoi? C'est la course au moins-disant sociale, fiscale, environnementale, etc., qui fait qu'on retrouve dans nos assiettes des produits qu'aucun agriculteur français n'aurait le droit de produire, tout simplement parce que c'est produit en dehors des normes qui s'appliquent chez nous. Ça, c'est quelque chose que nous refusons. Il faut donc remplacer le libre-échange par le juste-échange et subordonner les traités commerciaux internationaux, après avoir dénoncé les traités de libre-échange, à des clauses environnementales, à des clauses sociales. Je vais vous donner un exemple qui va vous faire réagir, c'est l'exemple de Donald Trump, qui exige que les pièces automobiles importées du Mexique soient fabriquées par des travailleurs mexicains payés au moins, je crois, $12 de l'heure. C'est tout à fait convenable. Et c'est tout à fait convenable de considérer que les pays d'où on importe, il faut considérer les conditions sociales et environnementales de fabrication chez eux.
Oui, mais alors c'est l'équation à laquelle on est confronté aujourd'hui, notamment dans la crise des gilets jaunes, puisque ces gilets jaunes, ce qu'ils veulent, c'est un gain de pouvoir d'achat. Ce gain de pouvoir d'achat, jusqu'à présent, il passe par la mondialisation. Si vous rectifiez d'une manière ou d'une autre cette mondialisation, vous allez être obligé d'amputer encore une fois leur pouvoir d'achat, puisque, par exemple, les voitures, si elles sont importées, c'est précisément pour que celles-ci coûtent moins cher, Hervé Juvin.
Ne jouons pas les naïfs. La mondialisation a fait une poignée de milliardaires, de gens qui ont ruiné leur région et mis tous leurs voisins au chômage. L'idée que la mondialisation va abaisser les prix pour le consommateur, oui, mais fait lui un chômeur. Est-ce que c'est bien ? Certainement pas. Lévi-Strauss l'a magnifiquement dit. Pour tout organisme et pour toute société, il y a un degré optimum d'ouverture et il y a aussi un certain degré de fermeture. Et selon les époques, eh ben, il faut plus ou moins ouvrir, il faut plus ou moins fermer. Je ne rêve absolument pas d'une société fermée. Je ne rêve absolument pas de fermer les frontières. Je dis simplement que le juste échange permettrait de répondre à une grande partie des manifestations des Gilets jaunes. Je vais vous contredire sur un point. Je ne crois absolument pas à l'interprétation, d'ailleurs l'interprétation d'Emmanuel Macron lui-même, les Gilets jaunes, ce sont des revendications économiques, on va les satisfaire par le SMIC, etc. Je pense qu'il
c'est
y a
pas
une...
forcément mal d'avoir des revendications économiques.
Non, je pense que
économiques.
Dans la colère des Gilets jaunes, il y a quasiment une révolte anthropologique qui s'est muée chez certains en haine anthropologique.
Cette révolte haine, anthropologique, qu'est-ce que vous
haine,
voulez dire ?
Cette haine, je l'entends traduire dans les meetings, tout simplement le cri qui réunit des milliers de Français, c'est « on est chez nous ». On est chez nous, ça veut dire on veut pas être embêté. On a le droit de rester là où on a choisi de vivre. On a le droit d'y vivre selon nos coutumes, selon nos traditions.
Personne ne dénie ce droit aujourd'hui.
Si, bien sûr. Vous avez entendu Emmanuel Macron parler de ces Français réfractaires au changement. Ils ont bien raison d'être réfractaires au changement. Vous avez entendu Emmanuel Macron dire les Français doivent s'aligner sur les schémas mondiaux, libre-échange, etc. Les Français ont bien raison de vouloir demeurer Français. Et la formule la plus révolutionnaire du moment, c'est « je conserverai ».
Est-ce que vous ne vous créez pas, Hervé Juvin, à la manière d'autres partis d'ailleurs, est-ce que vous ne vous créez pas des ennemis imaginaires ? Est-ce qu'il y a véritablement quelqu'un qui veut entreprendre une contre-révolution anthropologique en France ? Alors Emmanuel Macron a une politique économique, d'autres candidats en ont une autre, mais Emmanuel Macron ne demande pas, sauf erreur de ma part, aux Français de cesser de vivre comme des Français.
Je ne suis absolument pas adepte de la théorie du complot, mais je constate que l'intérêt des multinationales, je constate que le pouvoir des entreprises, absolument délirant par rapport à tout ce que l'on a connu, il faut se rappeler ces deux ou trois entreprises américaines dont le capital est de plus de 1000 milliards de dollars, il faut voir ce que ça représente. Il faut voir le pouvoir des grandes fondations, la Gates Foundation par exemple, est plus riche que 160 des États dans le monde. Ces gens-là ont le pouvoir d'agir dans le sens de leurs intérêts. Et leur intérêt, c'est de faire de nous des individus sur un marché mondial, sans plus d'attache citoyenne, isolés, seuls et voués au désir qu'on nous afflige.
Bon, on va continuer à discuter vos idées, Hervé Juvin. Je rappelle que vous êtes écrivain, essayiste et candidat du Rassemblement National aux élections européennes. On se retrouve dans une vingtaine de minutes pour tenter de comprendre finalement les articulations de votre pensée, qui est une pensée nouvelle au sein du Rassemblement National, qui marie écologie et ce que vous appelez le localisme avec un certain nombre de références. On a entendu Lévi-Strauss, vous aimez citer Lévi-Strauss. On verra dans quelle mesure Lévi-Strauss était véritablement en accord ou pas avec ce que vous venez de dire. Il est 8h sur France Culture. Nous sommes en compagnie d'Hervé Juvin, écrivain, essayiste, candidat du Rassemblement National aux élections européennes. Il a beaucoup de points communs avec vous, François Ruffin. Il critique Emmanuel Macron, il est plutôt écologiste et vous développez pour le Rassemblement National une forme d'écologie. Et puis, il est contre le capital cosmopolite. Est-ce que finalement, tout ça ne vous met pas sur la même ligne politique que lui ?
Il y a une chose très intéressante dans ce que je connais du positionnement politique de François Ruffin, c'est qu'en effet, il me semble très conscient de la question des frontières et de la question des limites. Et quelque part, il est en train de rompre avec l'internationalisme naïf qui fait que, d'une manière ou d'une autre, la gauche socialiste a trahi le peuple. Pour lui, cela compte. Et lui est aussi en rupture avec cette droite conservatrice qui a largement abandonné la nation. Et donc, par rapport à ce que je défendais devant vous, à partir du moment où on pense que la frontière, ça compte, et on pense que la nation... C'est probablement ce qu'ont de plus précieux en commun ces Français qui n'ont pas grand-chose. Je crois que le positionnement de François Ruffin est extraordinairement actuel parce qu'il répond au moment politique. Jusqu'où ira-t-il ? Je n'en sais rien. mais il est clair que sur beaucoup de ses positions, les convergences avec les positions que je peux défendre ne manquent pas, et peut-être est-ce qu'elles dessinent un nouvel avenir à un parti national et populaire qui soit très loin des clivages traditionnels de droite et de gauche, dont je ne sais plus très bien ce qu'ils signifient.
Bon, je ne suis pas certain qu'il serait d'accord avec vous, Hervé Juvin, et qu'il serait prêt à saisir la main que vous lui tendez, mais dans ce cas d'espèce, pourquoi dans ce cas-là, tout simplement, n'avoir pas proposé à la France Insoumise de vous prendre comme candidat si vous pensez qu'il y a de telles convergences ? Il y a bien quelque chose qui vous sépare de la gauche, de cette gauche-là.
Je vois très bien ce qui sépare François Ruffin de la gauche insoumise et d'une grande partie de la gauche. C'est précisément cette question des frontières, c'est précisément cette question des limites, et on va probablement y venir, c'est probablement cette question des migrations. Le modèle du nomade appliqué à des Français qui n'en veulent pas. Probablement, est-ce que ça fait une différence ? Il y a une autre différence.
Je ne suis pas certain que je serais d'accord avec vous, François Ruffin.
Je suis très méfiant sur un certain discours anti-élite. Je vais être clair. Si nous voulons faire de la France que nous aimons une grande France, nous avons évidemment besoin des meilleurs banquiers d'affaires, nous avons besoin des meilleurs gérants de fonds, nous avons besoin des meilleurs boursiers, nous avons besoin des meilleurs banquiers.
Donc
simplement, nous en avons besoin au service de l'intérêt national. Et donc, je suis très prudent devant une dénonciation des élites, une idéalisation de la France d'en bas, qui probablement répond pas aux vrais enjeux. Le grand sujet, c'est que nos grandes entreprises, nos grands entrepreneurs, nos grands banquiers soient au service de l'intérêt national. Et malheureusement, je suis pas toujours sûr que ce soit le cas.
C'est-à-dire, donnez-nous des exemples. Vous avez travaillé auparavant en entreprise, vous avez été consultant en entreprise, Hervé Juvin. Qu'est-ce que vous avez vu en travaillant en entreprise qui soit contraire à l'intérêt national ?
L'idéologie dominante, c'est que le monde est en train de s'unifier, les frontières n'existent plus, et par exemple, si l'essentiel de mon chiffre d'affaires se fait en Chine ou en Asie, je peux aller mettre mon siège social à Hong Kong. Si je constate que mes dirigeants sont trop imposés en France, je mets le siège social aux Pays-Bas, et naturellement, j'optimise mes réseaux commerciaux pour facturer à partir de l'Irlande en payant moins d'impôts. C'est tout à fait normal que les chefs d'entreprise agissent en ce sens, parce que c'est la doxa mondialiste. Ce que j'observe, c'est que ce sont les idées du passé. Cette vision naïve du monde comme un marché ouvert, c'est fini en Chine, c'est fini aux États-Unis, c'est fini dans une bonne partie des pays européens. Et j'ai envie de dire qu'Emmanuel Macron nous sert des idées des années 90 à un moment où le monde les a complètement abandonnées.
Idée des années 90, ça, je ne sais pas, mais en tout cas, par exemple, Nicolas Sarkozy, donc membre éminent de la droite républicaine, cette droite que vous critiquez, Hervé Juvin, décidait de lutter contre les paradis fiscaux. En quoi est-ce quelque chose qui distinguerait le Rassemblement national ?
Peut-être est-ce qu'il l'a dit, je ne sais pas s'il a beaucoup avancé. Je constate que l'Irlande continue à piller nos recettes fiscales en attirant les sièges de nombre de multinationales, notamment des fameuses GAFAM américaines. Je constate qu'un certain nombre de pays comme les Pays-Bas continuent d'attirer nombre de dirigeants à cause d'une fiscalité très attractive. Je constate que si Nicolas Sarkozy a voulu agir, il n'a pas obtenu beaucoup de résultats dans ce domaine.
Il y a un livre qui vient d'être publié sur le Front National. Il est publié par Sophie Montel. Elle a été membre du Front National. Aujourd'hui, donc, on dit le Rassemblement National. Il s'intitule « Balle tragique au Front National ». Et c'est un livre assez méchant. Cette femme, Sophie Montel, dit par exemple que au Rassemblement National, il y a une seule chose qui compte, c'est l'argent, que votre parti est obsédé par l'argent, par les différentes subsides, par les prébendes que ceux-ci peuvent obtenir en devenant élus, en ayant une responsabilité locale. C'est vraiment comme ça ?
Vous ne posez pas la question à la bonne personne. Je vous rappelle que je n'appartiens pas au Rassemblement National, je ne connais pas Sophie Montel et je ne connais pas la plupart des gens dont elle a dû parler dans son livre. Je n'ai pas le sentiment pour
ceux que... Donc vous n'y êtes pas ?
Ah, je n'en sais strictement rien. Je n'ai pas l'impression que les gens que je côtoie et que j'apprends à côtoyer et à apprécier aient fait fortune au terme de leur mandat politique. Je constate en revanche que les difficultés du Rassemblement National pour se financer m'apparaissent réelles parce qu'il y a une espèce de loi non écrite qui veut qu'en dépit de l'égalité des Français et en dépit de l'égalité des citoyens, un parti légal ne trouve pas les moyens de financer normalement ses campagnes. C'est ce que je constate et ça va tout à fait à l'encontre de ce que vous venez de dire de ce livre que je ne connais pas et que, pour être franc, je n'ai pas beaucoup l'intention de lire.
C'est dommage parce que j'aurais pu vous l'offrir après Hervé Juvin, mais alors c'est quand même assez paradoxal parce que vous parlez des banques cosmopolites et du coup le Rassemblement National, enfin jadis Front National, se finançait auprès d'une banque russe. Est-ce que pour quelqu'un d'aussi attaché que vous aux frontières, ça n'est pas un peu contradictoire ?
La contradiction, c'est quand un grand parti légal, peut-être le premier parti de France, ne trouve pas une seule banque française pour financer ses campagnes, étant donné qu'il y a une assurance totale d'être remboursé par les mécanismes de remboursement des frais de campagne. C'est ça qui est anormal. Que ce parti doive aller chercher à l'extérieur les crédits qui lui sont refusés en France, c'est tout simplement l'effet d'une perversion très profonde de notre démocratie, et je le dis très clairement, nous sommes sortis de la démocratie, nous sommes rentrés dans
sortis
un régime...
Sortis de la démocratie
nous sommes sortis de la démocratie, nous sommes rentrés dans un régime où les libertés publiques sont gravement menacées. Corinne Lepage a publié, l'ancienne ministre a publié un long papier dans Le Monde à ce sujet. Je considère, comme un certain nombre de constitutionnalistes et de juristes, que nos libertés publiques sont en recul. La loi anti-casseurs en est un exemple, il y en aurait beaucoup d'autres. Et je constate que l'étranglement financier des partis dont est également victime la France insoumise est tout simplement non démocratique.
Mais alors,
il n'est pas possible que des partis légaux représentant des millions de Français ne trouvent pas de manière totalement normale les moyens de se financer en France.
On peut commenter tel ou tel point, mais au point de dire qu'on est sorti d'un système démocratique, est-ce que, pour un intellectuel comme vous, ça n'est pas perdre le sens de la mesure, Hervé Juvin ?
Oh, je pense que tout ce qui est excessif est insignifiant. Je pense que nous sommes sortis de la démocratie pour deux ou trois raisons. Nous sommes rentrés dans le capitalisme de l'obéissance. Nous le voyons très clairement à travers un certain nombre des déclarations du gouvernement d'Emmanuel Macron, la France serait une entreprise. On voit bien le rêve de licencier ces Français qui ne veulent pas se conformer et qui ne veulent pas s'adapter au changement. On voit bien l'idée de remplacer des Français indociles, susceptibles de se mettre en grève, par des migrants qui, eux, seront totalement soumis au régime d'esclavage qu'on veut leur imposer.
Pourtant, j'ai pas l'impression qu'Emmanuel Macron ait accueilli beaucoup de migrants dont il voudrait, c'est votre point de vue, Hervé Juvin, faire des esclaves.
L'idéologie dominante est celle-là. L'idéologie dominante, je suis très méfiant sur l'idée de bouclier social qui est présente dans la lettre sur l'Europe. Avec le bouclier social, ça peut être une excellente manière de revenir sur les acquis sociaux nationaux. Nous sommes sur un détricotage à la fois des libertés publiques et des systèmes de protection sociale que les combats des Français ont conquis.
Mais c'est exactement le contraire de ce qui se passe. Regardez, je peux vous offrir aussi le journal L'Humanité. Vous savez, en plus, L'Humanité a des problèmes actuellement. Il y a un très bon papier aujourd'hui sur l'examen de ces mineurs isolés auxquels on fait un âge osseux pour les renvoyer chez eux si ils sont décrétés mineurs par cet examen, Hervé Juvin. Et on voit tout l'acharnement pour renvoyer ces migrants chez eux. C'est le contraire de la situation que vous décrivez.
Je ne parlerai pas d'un acharnement pour renvoyer ces migrants chez eux. Ce que les Français constatent, c'est que... Et je vais revenir sur le déni de démocratie. Les migrations de masse auxquelles nous sommes confrontés ont été l'objet d'un formidable déni de démocratie depuis 40 ou 50 ans. On a d'abord dit qu'il ne se passait rien, ils étaient là pour repartir. Ensuite, on a dit que s'il se passait des choses, c'était la faute des Français, le ridicule rapport tout récent du Conseil d'État, et que c'était aux Français de s'adapter à ceux qui venaient chez eux. Vous évoquez une grande dureté dans le traitement des migrants. Celles et ceux qui constatent l'évolution de la population française, tout simplement dans la rue, ne le constatent pas. Et je dis cela en pensant aux migrants installés ici, qui ont trouvé du travail et qui sont intégrés, qui sont les premiers à dire « Attention, il y a un risque de désintégration en France ». Ce risque de désintégration en France, il est en train de porter atteinte à la société française et à la civilisation française. Ne nous y trompons pas, ceux qui veulent venir du monde entier, c'est bien parce que c'est la France et parce que nous sommes Français.
Mais
sommes en train de laisser cette identité se dissoudre et les particularités de notre société et de notre civilisation disparaître.
Mais excusez-moi Hervé Juvin, vous voyez bien que l'Allemagne a accueilli 1 million de migrants, la France peine à en accueillir 30 000. Le gouvernement d'Emmanuel Macron a été particulièrement dur à l'égard des migrants qui souhaiteraient s'installer en France. Bref, vous êtes un intellectuel, vous savez très bien que on ne peut pas juger sur des préjugés une situation sociale. Il n'y a pas aujourd'hui d'invasion en France.
Je vous laisse à votre affirmation. Quand vous sortez tout simplement dans la rue à Paris, quand les femmes...
Qu'est-ce que vous appelez un migrant, Hervé Juvin ?
Un migrant est quelqu'un qui est venu d'un autre continent, d'une autre civilisation ou d'une autre culture notamment au cours de la dernière décennie, où des forces, j'y reviens, où des forces extrêmement puissantes ont fait du migrant l'objet d'une sorte de piété laïque. La figure du migrant est devenue la figure d'un saint laïc. Ça a beaucoup gagné le Parti Socialiste et ça a débordé l'ensemble dans la scène. Ça veut dire que l'individu est supérieur au citoyen. Ça veut dire que nous ne pouvons plus défendre aucune particularité de société ou de civilisation. Ça veut dire aussi que nous nous soumettons à la force la plus grande. Je ne vous apprendrai rien en disant que dans le monde, une des forces géopolitiques les plus grandes aujourd'hui, c'est l'islam. Et que par vide des religions traditionnelles et par déficit de nationalité et de citoyenneté, l'islam est une force d'attraction considérable, ce qui explique d'ailleurs les conversions qu'on observe en France. Ça veut dire tout simplement qu'une partie de la terre de France est en train de devenir terre d'islam.
Ça veut dire qu'en fait, un migrant, c'est un musulman ?
Certainement pas. Certainement pas. Ce que je constate simplement, c'est que dans les différents pays du monde que je peux croiser, mais là aussi, ça nous renvoie à l'écologie des civilisations. Vous avez des civilisations et des cultures qui s'entendent bien et où l'intégration et les rapports se passent naturellement. Et puis, vous avez des sociétés ou des cultures où ça se passe moins bien. Je ne vous étonnerai pas beaucoup en disant que dans un certain nombre de quartiers de Paris, une jeune femme qui entend s'habiller comme elle le veut n'est pas très à l'aise. Dans nombre de quartiers de Paris, une jeune femme qui veut rentrer seule dans un café n'est pas très à l'aise. Je ne suis pas sûr que ce soit la France. Je ne suis même pas sûr que ceux et celles des musulmans qui viennent trouver une liberté en France qu'ils ne trouvent pas dans leur terre d'origine apprécient cette situation.
Écologie des civilisations, c'est un terme que vous avez sillonné. Vous vous référez souvent, Hervé Juvin, à Claude Lévi-Strauss. Écoutez un extrait justement d'une interview de Claude Lévi-Strauss.
Et c'est ainsi que Gobineau s'est trouvé amené à poser le problème de l'humanité à partir de ses plus lointaines origines, c'est-à-dire à partir des différences entre les races. Seulement, Gobineau, qui s'est fait sur la notion de race, des idées un peu absurdes, mais dont il n'est pas responsable, après tout, il avait les idées de son temps, et les connaissances dont il disposait n'étaient pas du tout les mêmes que celles dont nous disposons aujourd'hui. Mais il a conçu ce grand schéma d'une humanité originellement très diversifiée, cette diversité apparaissant dans la structure anatomique, dans la couleur de la peau, dans la forme des cheveux, c'est-à-dire dans les différences raciales, mais auxquelles ne s'attachaient pas des différences de supériorité ou d'infériorité. Au fond, dans la pensée de Gobineau, toutes les races sont égales, chacune a des aptitudes particulières et dont elle est le dépositaire privilégié. Et toute l'histoire de l'humanité, c'est pour lui la fusion progressive de cette originalité raciale primitive vers un état de confusion qui est un état d'infériorité, mais qui est un état de dégénérescence dans sa pensée inéluctable.
La voix de Claude Lévi-Strauss. Alors, je ne vous fais aucun procès d'intention, Hervé Juvin, mais je me suis dit en vous lisant, alors par exemple en lisant France, le moment politique, votre dernier ouvrage publié aux éditions du Rocher, je me suis demandé si finalement vous n'étiez pas en accord avec le Gobineau qui était un auteur du 19e siècle, bon auteur, mais complètement dépassé, qui a donné à son corps défendant probablement lieu à différentes interprétations racialistes. C'est lui qui, notamment, a donné son essor à toute une pensée raciste, mais il était mort et évidemment on ne sait pas ce qu'il en aurait pensé. Est-ce que finalement toute votre écologie des populations, ça n'est pas un excellent discours pour le 19e ?
Renvoyez-moi à deux siècles précédents. Je crois que tout a profondément changé. Gobineau, ça a été bien dit par Claude Lévi-Strauss, avait les idées de son temps. Je pense qu'aujourd'hui, ceux qui croient réellement qu'il y a une quelconque supériorité d'une race sur les autres sont vraiment très très peu nombreux. Je pense que ces idées-là ont très largement disparu d'Europe. Je crois que ce dont vous parlez, ce dont il est question, c'est complètement différent. Il s'agit des singularités culturelles, des singularités de civilisation, dont je pense que si elles disparaissaient, elles font perdre une richesse essentielle à l'humanité. Elles sont le fruit de quoi ? Elles sont le fruit des établissements humains dans des situations climatiques, géographiques, écologiques complètement différentes. Les communautés humaines se sont adaptées à ces conditions. C'est ça qu'a fait la merveilleuse diversité des cultures que nous connaissons et qui est menacée par l'uniformisation de la globalisation.
Mais alors ça, c'est un discours différentialiste que l'extrême droite a depuis longtemps, notamment dans la revue Éléments, et vous êtes membre du comité de rédaction de la revue Éléments.
Non, j'y publie, je ne suis pas membre du comité.
Alors, en tout cas vous y publiez, pardonnez-moi, la revue Élément est une revue différentialiste, elle se sert de Claude Lévi-Strauss. Alors bon, je suis pas du tout certain que Claude Lévi-Strauss aurait été d'accord avec ce différentialisme-là, mais en tout cas, vous voyez bien que là aussi, c'est quelque chose de profondément démenti par les faits pour deux raisons. D'abord parce que la notion de race, d'ethnie est une notion qui est parascientifique, elle n'a aucune assise. Et ensuite, on voit bien que les aptitudes des individus, je parle des individus et pas des groupes, sont strictement équivalents, quelle que soit leur origine, Hervé Juvin.
Voyager en Afrique ou voyager en Asie, voyager en Amérique du Sud, dire que la notion d'ethnie n'a aucun contenu, c'est un contenu culturel et c'est un contenu d'adaptation à un milieu local.
Je ne parle pas d'anthropologie. Hein.
Ah oui, d'accord. Ce sont des notions extrêmement consistantes, existe. Y compris au niveau politique. Je ne vous rappellerai pas les drames du suffrage universel en Afrique, puisque ça aboutit à ce que l'ethnie la plus nombreuse gagne toujours les élections. Mais nous n'allons pas entamer un débat là-dessus.
Alors là, c'est encore différent. Mais disons, ce que je veux dire par là, c'est que ce différentialisme qui prête à des groupes humains, qui sont en réalité des groupes chimériques, même si les êtres humains ont le droit de croire en des chimères. Mais l'idée selon laquelle il y aurait une différence intrinsèque au groupe humain est une idée qui est profondément balayée aujourd'hui par la science.
Je n'ai pas dit qu'il y avait de différence intrinsèque au groupe humain parce que ce différentialisme, chez moi, il est national. La nation, c'est quoi ? La nation, c'est ce qui fait de l'unité interne à partir d'une certaine diversité. J'ai bien dit d'une certaine diversité. Et la nation, c'est quoi ? J'ai le sentiment que par rapport au chaos et à la confusion qui menace, la nation, c'est tout ce qui précisément permet d'intégrer des gens dont les origines, dont les provinces, dont les régions sont différentes, dans un tout commun. J'ai très peur que quand vous ouvrirez le couvercle de la nation, vous recueilliez précisément ce que vous craignez. Quand il n'y a plus la citoyenneté, on se différencie par quoi ? Eh bien par leur religion, eh bien par les origines. J'ai très peur qu'à déconstruire le cadre national et la citoyenneté, on aboutisse à ce retour du refoulé que vous évoquez qui semble vous faire peur. J'aurai un dernier point. Contrairement à ce que vous dites...
Je considère juste que le différentialisme est une fable.
Contrairement à ce que vous dites... Vous n'allez pas nier qu'il y a des différences de culture et de civilisation.
Je n'y
vous n'allez pas nier qu'une partie de la merveilleuse richesse humaine, elle est faite de cette diversité. Et je suis inquiet quand une certaine globalisation, un nomadisme généralisé, aboutit à faire de tous et de tous les mêmes. C'est ce que je reproche beaucoup, notamment aux thèses de M. Hariri, l'idée que l'humanité vers son unité. Je pense que c'est le contraire qui est en train de se passer.
Duval Noir.
Je crois que nous sommes en train d'assister à une insurrection de la différence. Je crois partout dans le monde ce qui se passe, c'est le retour de ces différences vitales qui font précisément la valeur de l'humanité.
Moi, je pense précisément l'inverse. Je pense au contraire que la postmodernité, c'est-à-dire le moment auquel nous nous référons aujourd'hui et pas le moment Gobineau qui est le moment du 19e, on a affaire au dernier sursaut et vous voyez bien finalement que lorsque vous évoquez par exemple les identités régionales, elles reposent finalement sur un bricolage très sympathique. J'aime beaucoup la Drôme, j'aime beaucoup le Dauphiné, j'aime beaucoup l'Isère, mais on voit bien qu'en dehors des ravioles, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis le 19e, Hervé Juvin.
Ce que vous êtes en train de dépeindre, pour moi, c'est un cauchemar totalitaire qui conduit à la fin de l'humanité.
Rien que ça ?
Tout simplement parce que si tous les hommes doivent aller vers le même modèle de consommation, vous savez très bien qu'il faut 4 ou 5 planètes. Vous savez très bien que le modèle de consommation diffusé par les multinationales et diffusé par l'intérêt marchand, il condamne simplement toutes les ressources naturelles. C'est la raison de mettre l'écologie comme principe politique majeur. C'est la raison de ce différentialisme que vous m'imputez, à mon sens, à tort. J'essaie de respecter la diversité des cultures, qui est la diversité des désirs et qui est la diversité des modes de consommation. Nous ne serons sauvés que par la diversité humaine. Si tous les hommes désirent la même chose sur la planète et s'ils sont 10 milliards, c'en est fini de l'histoire humaine. Or, jusqu'ici, les cultures et les civilisations, c'était d'abord la diversité des désirs et des modèles de bonne vie. Ce que je regrette dans nos sociétés occidentales, c'est que nous soyons incapables de proposer des modèles de bonne vie. Le seul modèle, c'est celui qui nous est imposé par la publicité, par les multinationales et par le monde des GAFAM.
Mais alors, Il y a un auteur qui dit strictement l'inverse de vous, il est plus ancien que Gobineau, c'est Montesquieu. Pour Montesquieu, il y a le doux commerce, c'est les multinationales qui justement empêchent les individus de faire la guerre, parce que lorsque les individus font du commerce, c'est ce que dit Montesquieu, il ne faut pas la guerre. Et puis Montesquieu dit effectivement qu'il y a des différences entre les peuples, liées au régime politique, liées aussi au climat. C'est à mon avis la partie chez Montesquieu qui a le plus mal vieilli. Est-ce que ça n'est pas une manière finalement de dire que ce commerce que vous méprisez, alors que vous avez travaillé en entreprise, on est beaucoup à avoir travaillé en entreprise, Hervé Juvin, et c'est important d'apporter du travail aux hommes, eh bien, ce doux commerce, il permet aux individus de coopérer au-delà, effectivement, des frontières. Mais en quoi est-ce quelque chose de critiquable?
Je crois que Bernanos a écrit que quand le monde est saisi par la technique, la liberté meurt. Je pense cela du commerce. Si c'est le commerce qui devient la loi du monde, la liberté et la politique aussi meurt. Ma réponse sera très simple. Quelle blague que cette idée que le commerce assure la paix. Le commerce, c'est la guerre par d'autres moyens. Le commerce est capable de supprimer la paix entre les peuples. C'est la même stupidité que les démocraties ne se font jamais la guerre. Les démocraties peuvent aussi se faire la guerre parce que des mouvements populaires peuvent conduire à la guerre. Je crois que nous sommes très largement sortis de cela et le monde entier est en train d'en sortir. Regardez partout la dénonciation des traités de libre-échange. Regardez
quelles sont les démocraties qui se font la guerre, Hervé Juvin. Vous voyez bien que
Les États-Unis sont le pays qui a été le plus souvent en guerre au cours du XXe siècle, et les États-Unis sont le pays qui a initié le plus grand nombre de guerres.
J'imagine qu'il y a une partie des guerres du XXe siècle dont vous approuvez l'existence. J'imagine que vous n'auriez pas été heureux si...
Certainement pas les interventions en Afghanistan, en Irak, en Libye, en Syrie, et la liste pourrait être longue. Est-ce que le Venezuela viendra s'y ajouter? Ce que je voulais dire, c'est que c'est une fable que le commerce attire la paix. Le commerce est tout aussi susceptible d'attirer la guerre. Et si j'avais un mot simplement sur ce thème, je crois que la grande menace totalitaire aujourd'hui, elle vient des GAFAM, elle vient de la domination d'un certain nombre d'entreprises qui veulent réduire le monde à son exploitation. Ça, c'est une menace sur la survie de l'humanité et c'est le totalitarisme mou dans lequel nous sommes en train d'entrer.
Hervé Juvin, est-ce que finalement, en citant Bernanos, auteur admirable, est-ce que finalement vous n'êtes pas simplement un anti-moderne, c'est-à-dire vous considérez qu'il y a une situation qui est une situation antérieure, alors je ne sais pas moi, et à la France de la Révolution industrielle, une situation qui était préférable à la France d'aujourd'hui. La seule chose que je vous soupçonnerais de faire, c'est d'être dans le paradoxe, parce que je vois en face de moi, vous êtes un homme de la modernité aussi.
Je pense exactement l'inverse. Je crois que la liberté du commerce, je crois que le tout marchand, je crois que la fin des nations, la fin des frontières, je crois que le monde est en train de s'uniformiser. Tout ça, ce sont les années du passé. Il faut tourner la page. Ce sont les idées des années 90. Il est absolument navrant de voir l'Union européenne s'y abandonner. Le grand récit qu'on nous fait, il est européen. Les réalités sont nationales ou locales. Et donc, je crois qu'être moderne aujourd'hui, c'est penser que c'est la frontière qui sauve. Ce sont les différences qui nous font survivre. Et c'est par-dessus tout la diversité des sociétés et des civilisations humaines qui fait notre richesse et qui fera notre survie.
Oui, mais dans les frontières, vous avez vous-même une présentation de la France comme une mosaïque régionale. Et vous connaissez en quelque sorte les limites de ces pensées-là, de ces représentations-là du territoire. Parce qu'ensuite, on va descendre au niveau de la commune et puis à la fin, bref. C'est impossible de faire société si on a une telle représentation des disparités individuelles.
Absolument pas. Quand vous regardez la manière dont la République française s'est constituée, vous constatez au XIXe siècle un phénomène assez intéressant. Chaque département, chaque collectivité territoriale s'affirme dans son identité et rivalise pour être plus française que les autres. Vous avez quelques livres qui ont merveilleusement travaillé là-dessus. Vous avez notamment le livre de Pierre Nora, Enquête sur la France, je crois, qui montre bien comment il y a dans les lieux de mémoire également, comment il y a une sorte de compétition pour dire, mais nous en Creuse, on est encore plus pleinement français que les Aveyronnais. Et les Bretons viennent dire, ah non, nous, on est encore plus pleinement français. Il y a une sorte de compétition pour participer plus pleinement à l'espace national. Ce serait ma réponse. L'espace national, je le répète, c'est l'inverse des discriminations fondées sur l'origine, fondées sur la croyance. Mais ça veut dire que la nation travaille à la citoyenneté, considère le citoyen au-dessus de l'individu et sache conserver sa frontière.
Mais ça veut dire aussi que ce régionalisme-là, ce sont des communautés imaginaires. C'est pas péjoratif, une communauté imaginaire. Ça veut juste dire que quelqu'un qui n'est pas né en France peut dire « je suis français depuis que la France s'est faite ». Ça veut dire aussi, Hervé Juvin, que on n'est pas du tout dans la préférence nationale, mais dans une forme de possibilité nationale, très éloignée finalement du programme du Rassemblement National.
Oh, je vous mettrai à l'aise. J'avais utilisé la formule lors d'un discours récent à Fréjus. Je crois qu'est définitivement et totalement français pour moi celui qui fait passer la France avant Rome ou la Mecque, avant Jérusalem ou Moscou. Je m'en tiens à cela. Je crois que celles et ceux pour qui
avant
la France
Moscou,
est le bien
vous
le
faire
plus...
des ennemis
je
dans
crois
votre parti.
Que celles et ceux pour qui la France est le bien le plus précieux, celles et ceux qui sont capables de sacrifier quelque chose, de se battre pour le projet français et pour l'identité de la France, ceux-là sont pleinement français. Je pense que c'est une définition qu'on n'aurait pas reniée au moment des années 50, où, je vous rappelle, nombre de ministres du gouvernement français étaient africains, de Houphouët Boigny à Léopold Sédar Senghor, nombre de ministres français étaient d'origine maghrébine. Ce sont des temps qu'on a oubliés, mais cette grande France-là, à la fois très forte de son identité, très ouverte au monde, c'est probablement celle qu'il faudrait reconstruire.
Mais alors, bon, la dernière partie de votre discours, on l'entend bien encore, qu'encore une fois, je ne suis pas certain que Jean-Marie Le Pen, bref, le canal historique du Front National ait adhéré à tout cela. Mais au-delà de ça, pourquoi vouloir se chercher des ennemis, Hervé Juvin? Pourquoi vouloir chercher à tout prix des gens qui en veulent aux frontières, qui en veulent... Parce que finalement, personne... Aujourd'hui, elle ne manifeste en France contre les frontières. Bah, quelque chose qui est si fréquent que ça. Oui, il y a des no-borders, mais ces gens-là sont une petite minorité.
Vous me surprenez beaucoup parce que je crois que vous lisez la presse et vous devez même quelquefois écouter la radio. J'entends à peu près partout le même refrain. La frontière, c'est fini. Le libre-échange, c'est l'avenir. Chacune et chacun doit aller chercher partout dans le monde les meilleures opportunités. Nous sommes tous des hommes comme les autres, etc., etc. Je crois que ce discours de la confusion et de l'indifférenciation, pour moi, c'est le lit ouvert à un nouveau totalitarisme. Je l'ai dit, si j'avais une inquiétude politique, elle ne vient pas du tout de régimes autoritaires. Je crois que les conditions en Europe sont largement dépassées. Je crois en revanche que nous sommes dans un capitalisme de l'obéissance qui peut rapidement devenir un capitalisme criminel. Et je pense que c'est la première menace que nous devons affronter aujourd'hui en France et en Europe.
On l'a entendu, votre crainte, c'est celle de l'indifférencié. Merci Hervé Juvin d'avoir exposé votre conception du moment que nous traversons. France, le moment politique, c'est votre livre publié aux éditions du Rocher.